Écoutez le magazine Dignité Noire, présenté par Mbayaji Mbayriway. Au sommaire, cette semaine.
Bienvenue sur CKIA 88.3 FM à Québec et dans ses environs. Nous sommes le lundi 7 juin 2021. Vous êtes à l'écoute de Dignité Noire. Mon nom est Magloire Mpembi, je co-anime avec Mbaye. Nous sommes avec vous jusqu'à 20h. Vous pouvez nous suivre en direct sur 88.3 FM, sur www.ckafm.org et sur notre page Facebook Dignité Noire CKIA FM. Au menu de Dignité Noire ce soir, nous allons parler d'un projet missionnaire de soutien aux enfants migrants au Togo. Joannie Pelletier et Véronique Demers sont nos invités sur CKIA FM 88.3. Par la suite, Oumou nous rejoindra pour sa chronique littéraire consacrée ce jour au livre « Noir sous surveillance, esclavage, répression, violence d'État au Canada » de Robin Ménard. Dans le cadre du mois de l'histoire des Autochtones, nous parlerons de l'événement Kwe à la rencontre des peuples autochtones qui aura lieu du 18 juin au 4 juillet. Notre invitée pour en parler s'appelle Mélanie Vincent. Elle est membre de la nation Huron-Wendat. Nous la retrouverons tout à l'heure.
Dignité Noire avec Mbayaji Mbayriway. Vous écoutez le magazine Dignité Noire, présenté par Mbayaji Mbayriway.
Nous recevons Véronique Demers et Joannie Pelletier pour parler de leur voyage au Togo qui aura lieu du 16 juin au 12 juillet 2021 afin de participer à une mission exploratoire en faveur de l'aide à l'enfance. En effet, elles vont prêter main forte à l'association Demain dès l'aube dans le cadre d'un projet structurant et d'accompagnement spirituel des enfants migrants de Lomé, en particulier dans la commune de Golfe 1. Véronique Demers est journaliste et pigiste. Joannie Pelletier est enseignante en éducation physique et à la santé au Cégep Garneau et animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Elles sont au téléphone avec nous. Bonsoir Joannie Pelletier, bonsoir Véronique Demers.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va très bien. Ça va bien, merci. On est contente de vous parler.
Bien, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être avec nous en direct sur Dignité Noire, sur CKIA FM. Au Togo, comme dans les pays voisins, plusieurs enfants à la recherche d'un avenir meilleur se retrouvent seuls, abandonnés et dorment sur les plages de grandes villes. Comment avez-vous été mis au courant de ce phénomène et d'où vous est venue l'idée de ce projet?
Ben en fait, c'est que je consultais plusieurs pages Facebook pour trouver des projets d'aide humanitaire. Puis je suis arrivée sur la page qui s'appelle Au cœur de l'Afrique, qui est un projet pour favoriser l'accès à l'eau potable dans la même région là à Lomé que celle où on va faire le projet avec les enfants migrants. Et puis, c'est le responsable de ce projet-là qui s'appelle Éric Otoï qui est entré en communication avec moi pour me demander là, si j'avais un intérêt à développer justement le volet de plus structurant et d'accompagnement spirituel auprès des jeunes migrants.
Je vous arrête un instant. On a au téléphone, alors pour nos auditeurs, ce serait bien de savoir qui est en train de parler là.
C'est Joannie Pelletier qui est en train de parler. C'est l'instigatrice du projet. Là. Elle a vraiment eu l'étincelle, dans le fond, pour ça. Donc, on peut dire que, dans le fond, Véronique Demers, j'ai une voix un peu plus grave et Joanie Pelletier, une voix un peu plus haut dans les airs.
Allez-y, Joanie, on vous écoute, oui.
Est-ce que vous désirez que je répète ce que je viens de dire?
C'était juste pour préciser à l'oreille qui est en train de nous parler. Allez-y, Joanie.
OK. Est-ce que je répète ça?
Non, mais dans le fond,
Est-ce que vous désirez que je répète ce que je viens de dire?
Oui, en 30 secondes, si vous voulez. Comment avez-vous été mise au courant de ce phénomène et d'où vous est venue l'idée de ce projet?
OK. Donc, je consultais des pages Facebook pour trouver un projet d'aide humanitaire. Puis, je suis arrivée sur la page qui s'appelle « Au cœur de l'Afrique », qui est un projet là, pour favoriser l'accès à l'eau potable des jeunes migrants de Lomé. Et puis, c'est le responsable, en fait, de ce projet-là, qui s'appelle Eric Otoï, qui a communiqué directement avec moi pour me demander si j'avais à cœur de développer le volet structurant et d'accompagnement spirituel pour les jeunes migrants.
Et d'après les contacts que vous avez eus avec les associations ou cette association sur place, quelle est la cause de ce phénomène? Comment ces jeunes migrants se retrouvent toutes seules sur les plages de grandes villes de l'ouest de l'Afrique?
Ben, en fait, ce que Joanie, là, c'est Véronique Demers qui parle, ce que Joanie a découvert et m'a partagé, parce que je me suis joint un peu plus tard dans le projet, c'est que ces enfants migrants-là viennent dans la capitale parce qu'on leur promet notamment un emploi, du travail, quelque chose qui va améliorer leur condition de vie. Et finalement, c'est pas ça qui se passe. Ils sont évidemment très déçus et finissent par être un peu laissés à eux-mêmes. Donc, ils organisent des petits campements de fortune. Il y a aussi une autre raison, ben soit ils décident de fuir leur famille, ou ils sont abandonnés, leurs parents sont décédés, ou parfois, on les étiquette d'enfants sorciers selon certaines croyances. Là. Donc, bref, ces enfants-là sont là et ils souhaitent avoir évidemment là, un avenir meilleur. Mais ils vont dans la capitale parce que, dans le fond, c'est là qu'il y a le plus de ressources et puis ils espèrent être pris en charge par l'État. Donc, c'est ça.
Et apparemment, à partir de ce que vous avez vu et ce que vous nous racontez, l'État n'est pas en mesure de les prendre en charge en réalité.
De les prendre en charge complètement, non, mais avec Eric qui est l'organisme Demain des Lombes, c'est le grand objectif. Et Eric, si je pouvais le décrire, là, est comme une pieuvre. Il est en train de développer différents partenariats avec différentes personnes pour justement arriver à les prendre en charge, que ce soit au niveau de l'eau, la nourriture, les ramener à l'école, éventuellement leur donner un endroit pour vivre et avec nous pour leur donner un volet de vie plus structurant, un volet de vie familial, un volet de vie spirituel.
Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez à la recherche d'un projet humanitaire et pourquoi est-ce que ce projet vous a particulièrement intéressé?
Ben en fait, c'est que moi je suis chrétienne, donc je suis croyante et pour moi, et comme pour Eric et comme pour Véronique, on croit que même si on répond à l'ensemble des besoins physiques de ces enfants-là, bien si on ne les aide pas à grandir au niveau spirituel, on va passer là, à côté de l'essentiel de notre mission de vie pour ces jeunes-là.
Ben, il y a une question pour vous.
Ouais, bonsoir. Madame Pelletier et Madame Demers.
Oui.
J'ai une question pour vous. Vous avez entendu parler de syndrome de le White Savior, le blanc sauveur?
Non.
Bon, alors, c'est ça. Aujourd'hui, souvent, dans les pays en développement, il y a des personnes du Nord qui vont dans le Sud pour sauver les jeunes enfants ou sauver les gens du Sud. Là. Souvent, c'est une critique qu'on fait à l'action humanitaire. On appelle ça le White Savioring, là, le phénomène de syndrome du blanc sauveur. N'est-ce pas? Le blanc qui va dans le sud pour sauver les autres. Dans quel comment votre projet se distingue de ce syndrome-là? En quoi vous n'êtes pas contaminé par ce syndrome, si je veux ainsi dire? En quoi vous n'êtes pas des white saviors?
C'est sûr qu'on a peur, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui est souverain, qui est tout-puissant, d'abord et avant tout. C'est sûr que, bon, on va bronzer un peu, mais notre peau ne changera pas de couleur, évidemment, rendu là-bas. Mais, c'est, en fait, ce qui est vraiment intéressant et pertinent, c'est qu'on va se mettre vraiment sous le leadership d'Éric Othoï. Là, on veut vraiment le soutenir dans quelque chose qui est déjà, qui est comme commencé à se mettre en place. Donc, je pense que le fait que, tu sais, oui, on a un projet, mais au final, tu sais, l'homme propose, Dieu dispose, et puis le fait qu'on se met sous l'autorité et le leadership d'Éric Othoï, ben, je pense que, tu sais, ça va nous mettre comme à la bonne place, puis que peut-être éviter justement là qu'on soit des white saviors.
Parfait. Ben, donc, ben, je rappelle que votre mission s'inscrit dans une dimension spirituelle aussi, hein, religieuse, tout ça.
Oui.
Parfait. Alors, mm-hmm. On va vous accueillir à nouveau là, quand vous allez rentrer pour savoir, vérifier si vous n'êtes pas des white saviors.
Oh, ben, c'est parfait. Ça va nous faire vraiment plaisir de partager là, des péripéties, des bons coups, puis des situations aussi qui nous ont demandé plus d'adaptation, parce que c'est sûr qu'on va quand même vivre un dépaysement, changement de culture et de température aussi. On prévoit amener des bandeaux puis d'acheter beaucoup de bouteilles.
dans le décor que vous nous avez partagé, Jojo et Véro au Togo, vous annoncez avoir récolté de l'argent pour financer cette action, un peu pour enfoncer la porte verte par Mbaye. Moi, j'ai une autre question à vous sauver. Pourquoi est-ce que vous ne vous dites pas on enverrait peut-être l'argent directement plutôt que de nous déplacer nous-mêmes, et qu'en vous déplaçant, finalement, vous consommez une partie de cet argent qui a été cotisé, alors que vous auriez pu l'envoyer à l'association qui est sur place. Qu'est-ce que le fait que vous déplaciez vous-même sur place amènera comme plus-value dans cette action que vous menez?
Ben, en fait, je crois qu'on a vraiment reçu l'appel de Dieu pour se déplacer. On a vraiment été demandé aussi par les gens qui sont là-bas pour vraiment venir porter main forte. Et aussi, c'est qu'on a vraiment l'objectif que le projet prenne vie dans le temps. Et donc, d'y aller à plusieurs là, dans les années à venir, et de vraiment construire quelque chose de plus grand qu'une simple mission exploratoire. Et on pense que, dans ce qu'on croit, que parce que Dieu l'a mis sur notre cœur, il souhaite nous utiliser pour cette mission-là au Togo. Et qu'ultimement, ben, peut-être qu'il y aura moins d'argent pour les enfants, mais il y aura peut-être plus de vies sauvées par le salut en Jésus.
Si je peux me permettre, j'aimerais ajouter un complément d'information.
Allez-y.
C'est parce que, dans le fond, c'est une mission exploratoire d'observation. J'espère que je ne vais pas me répéter. Il y a eu un petit truc qui m'a déconcentré, pardon. Mais dans le fond, on compte vraiment faire un rapport, puis d'essayer là, d'évaluer là, les différents éléments, là, à la fois ressources humaines et ressources matérielles, qui serait nécessaire là, pour mettre un projet en place pour les prochaines années, puis susciter aussi une relève au niveau des jeunes, des moniteurs et tout ça. Donc, c'est quand même... ouais, on est comme des pionniers. Fait juste d'envoyer l'argent là-bas, étant donné qu'on fait comme un premier contact, c'est comme quand même préférable qu'on y aille en personne. Là. Mais dans le fond, on peut annoncer que on a bientôt, oui, on a quand même récolté pas mal tous les fonds qu'on avait besoin pour la mission. Et là, les dons qu'on va recevoir, ben ça va servir à appuyer là, la mission là, dans les prochaines années, mais aussi surtout pouvoir faire des dons justement aux enfants, parce que c'est ça le but, les nourrir. Puis encore là, étant donné qu'on est sous le leadership de, excusez-moi. Étant donné qu'on est sous le leadership de Éric Othoï, ben c'est comme on va lui laisser comme gérer les dons pour s'assurer d'avoir des relations saines avec les jeunes là-bas là, puis qu'ils viennent pas vers nous pour par intérêt. Donc on fait vraiment attention là, dans le fond, dans tout ce qu'on va faire là-bas.
Vous l'aurez remarqué, je ne suis pas seul dans ce studio. En plus de Mbaye, il y a notre ami Brice, et lui aussi a une question pour vous.
Oui, salut vous deux. Moi, j'aurais une question, et ça aura deux volets. La première, c'est de savoir On sait déjà que dans les années 60, ou bien même avant les années 60, dans, au début des années 1900, il y a des missions catholiques qui ont été faites pour, vers l'Afrique pour aller coloniser un peu ces territoires-là, pour aller annoncer la bonne nouvelle. On nous a partagé la Bible à des dizaines de milliers. Donc, on a reçu Dieu, on a reçu Christ, on a lu la Bible, on a mis en pratique. Mais depuis ce temps-là, on ne se développe pas. C'est comme si on nous a étouffé dans le cerveau, on nous a ouvert le cerveau, on nous a étouffé notre intelligence avec la Bible, on ne fait que croire en Dieu. Moi, ma question est de savoir, est-ce que ces jeunes Togolais, ces jeunes immigrants ont vraiment besoin de Dieu encore à l'époque où nous sommes aujourd'hui? On est dans un système où il y a la dictature au Togo avec le président Yadema, mais est-ce que vraiment vous pensez que ces jeunes migrants ont vraiment besoin de Dieu à l'heure où nous sommes? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'une cure spirituelle à l'heure actuellement où nous sommes? Le problème n'est-il pas ailleurs? Ça, c'est le premier volet de ma question. Le deuxième volet, c'est de savoir bah, qu'est-ce que vous allez changer dans la spiritualité de ces jeunes-là? Parce que d'abord, les Togolais, ils ont leur religion, ils sont animistes dans la plupart. Il y a le vaudou qui est là-bas, donc c'est leur religion, c'est en ça ils croient. Mais qu'est-ce que Dieu, ou bien Jésus-Christ, la bonne nouvelle, a à voir ceci avec le Dieu qu'ils adorent déjà? Pourquoi vous voulez aller changer leur spiritualité? Voilà.
Et dans le fond, on va non seulement collaborer avec Éric Otoyi et l'organisme Domaine de l'Homme, mais il y a aussi quand même l'Église Salut des Nations qui se greffe là peut-être en parallèle ou secondairement là au projet, mais qui va être quand même présente et qu'on va on va fréquenter là-bas. Donc il y a des chrétiens là-bas sur place. Puis c'est ça, oui, je pense que vous avez mentionné là, animisme. Ben, en effet, il peut y avoir quand même une diversité de croyances. Mais nous, vraiment, on a le focus dans le fond sur sur la mission chrétienne et c'est ce genre de valeurs-là qu'on veut apporter. Mais je comprends aussi que d'abord et avant tout, quand on est dans un état, dans une situation de survie, ben c'est sûr que par rapport à la pyramide de Maslow, évidemment, il faut que les besoins de base soient comblés avant de penser à un quelconque épanouissement, là. Mais c'est pour ça, c'est comme le logement, bon, un orphelinat potentiel, les nourrir, l'éducation. Mais je pense que c'est comme chaque être humain aspire dans un sens à s'épanouir, à s'émanciper pleinement. Puis c'est comme ce volet-là plus qu'on veut leur apporter parce que la vie n'a pas de sens selon nous de juste comme manger, boire, puis être c'est pas d'avoir un toit sur la tête. Il y a plus que ça dans le fond.
Véronique Joanie Pelletier, Véronique Desmers et Joanie Pelletier, donc vous allez au Togo, votre mission est inspirée par votre foi, votre croyance, mais même si vous apportez la bonne nouvelle, vous pensez aussi aux besoins physiques de ces enfants. J'ai une question pratico-pratique, on tend vers la fin. Est-ce que la COVID-19 a eu un impact sur l'organisation de votre voyage?
Oui, en effet, ça a eu un impact considérable. Il y a eu certaines démarches supplémentaires là, à faire oui, au niveau de la vaccination, au niveau des tests COVID qui seront à faire avant de partir pour s'assurer là, qu'on est négative lors des transports et lors de l'arrivée dans les pays.
Vous restez combien de temps au Togo? Vous partez quand?
On va rester 3 semaines et demie.
3 semaines et demie, donc vous partez ouais. Quel jour?
On part le 16 juin, puis on revient le 12 juillet.
Et le Togo, c'est un pays de l'Afrique, c'est un pays sous-développé ou en voie de développement, c'est là la perspective que l'on prend. Les infrastructures sanitaires, ce n'est pas comme à Québec. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur?
Ben moi de mon côté ben ça va là, ben c'est-à-dire c'est sûr que on va dire que je vais me remettre dans le bain, mais je suis déjà allée dans un voyage humanitaire en Haïti en 2015 et j'ai été amenée là à
sélectionné quand même plusieurs régions, justement, où il n'y avait pas les infrastructures des goûts d'aqueduc. Et puis, dans certains villages, ben ils avaient quand même là des moyens, des techniques, des outils intéressants là, avec des copeaux de paille. Non, ils se débrouillaient bien. Donc, non, personnellement, ça me fait pas trop peur. Là, peut-être plus, c'est peut-être plus là, le soleil, parce que j'ai comme une peau rousselée, puis il va falloir que je me protège beaucoup. Là. C'est plus ça, mais non, on va prendre toutes les précautions qu'il faut, même c'est pour l'eau, pour faire la faire filtrer et tout. On veut revenir en un seul morceau à Québec.
Véronique Desmers, Joanie Pelletier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bon courage pour votre mission au Togo. Pour ceux qui nous rejoignent, nous venons de recevoir Véronique Desmers et Joanie Pelletier, qui vont accomplir une mission humanitaire au Togo de 3 semaines et demie afin de supporter, de venir en aide aux enfants migrants. Merci, bon courage.
Merci, au plaisir. Puis ça va me faire plaisir de raconter quelques histoires là, au retour quand on aura terminé notre quarantaine.
Vous êtes les merci bienvenus beaucoup. Sur Dignité Noire et sur CKIA.fm.
Merci.
C'était le magazine Dignité Noire avec Mbayaji Mbayriway. Vous écoutez le magazine Dignité Noire présenté par Mbayaji Mbayriway.
Notre chroniqueuse et amie Oumou vient de nous rejoindre dans ce studio. Sa chronique littéraire aujourd'hui est consacrée à l'ouvrage « Noir sous surveillance, esclavage, répression, violence d'État au Canada » de Robin Ménard. Oumou, merci d'être là.
Bonjour, bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, Magloire, ma chronique porte sur le livre « Noir sous surveillance ». Alors ce livre est paru en 2018 aux éditions Mémoire d'Encrier pour la version française. Il a été traduit de l'anglais, il a aussi remporté le prix des libraires. Alors la question que je pose à chaque fois maintenant, c'est pourquoi j'ai choisi ce livre. Alors j'ai choisi ce livre car ça fait un an que George Floyd est décédé. Oui, il y a un an, nous nous étions réunis devant l'Assemblée nationale à Québec. Il y avait des marches un peu partout dans le monde. Certains peuvent penser qu'il y a peu de racisme au Canada et surtout, je souligne que le racisme systémique n'est pas reconnu au Québec. Dans ce sens, c'est pour appuyer la conversation de Marielle la semaine dernière où elle parlait des enfants noirs dans la DPJ. Aujourd'hui, je vais plus me focaliser sur le racisme systémique en général, qui est peut-être une réponse à la surreprésentation des enfants noirs à la DPJ. J'ai aussi choisi ce livre car le racisme anti-noir est partout sur la planète et les répercussions que ça peut avoir sur les personnes ou sur les collectivités noires sont immenses. Dans l'actualité, dernièrement, on a eu aussi beaucoup de vidéos qui sont passées sur le thème, encore une fois, malheureusement. Alors, ce livre, il est vraiment super. C'est une pépite. On retrouve de nombreuses statistiques, mais surtout des réflexions pertinentes. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais aujourd'hui, j'ai décidé de me focaliser sur les premiers chapitres du livre. Dans une prochaine chronique, je me focaliserai sur d'autres chapitres, notamment sur les violences faites aux femmes noires, mais aussi sur le système d'éducation, les enfants, sûrement à la rentrée. Alors, le livre est divisé en 8 chapitres. Robin Ménard évoque différents sujets, dont l'esclavage, la colonisation, la répression, et elle fait aussi des parallèles avec les autochtones. Robin Ménard, c'est une activiste, une écrivaine montréalaise qui se consacre à la sensibilisation et aussi à la défense des droits des personnes marginalisées ou criminalisées. Sa bibliographie est vraiment étonnante. Il y a plus de 40 pages avec de nombreux ouvrages. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a écrit ce livre? Elle a constaté que les Noirs subissaient de manière absolument disproportionnée ce qu'il faut bien appeler la négligence concertée et la violence exercée ou cautionnée par l'État. Mais c'est aussi parce que la plupart des Canadiens ignorent tout ou presque tout du racisme anti-noir. Mais surtout qu'au Canada, elle ne fait pas de bruit. Donc, c'est vraiment pour mettre la lumière sur ce que les Noirs vivent qu'elle a écrit ce livre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des informations pertinentes issues du livre, en commençant par « Savez-vous que ?» Donc, « Savez-vous que tout a commencé en 1444 ?» C'est l'année qui marque le début de la dépréciation du corps noir et donc le début de l'esclavage. Savez-vous que les Noirs sont exposés à des violences structurelles explicitement ou implicitement cautionnées et tolérées par l'État lui-même? Savez-vous que les Noirs du Canada étaient déjà soumis à des taux disproportionnés d'arrestation par des infractions relatives à la violence, aux drogues ou à la prostitution au 19e et au début du 20e siècle? Les Noirs sont donc beaucoup plus ciblés par les procédures d'arrestation. Savez-vous que les Noirs forment avec les Autochtones l'un des groupes démographiques raciaux les plus pauvres du Canada? Savez-vous que, pour reprendre un peu l'actualité, savez-vous que les lois et les politiques concernant les Autochtones cherchent à détruire leur collectivité pour débarrasser les Autochtones de leur présence gênante afin de faciliter l'accès aux terres? L'objectif ultime, Robin Ménard dit que l'objectif ultime du colonialisme blanc consiste donc à éliminer les peuples autochtones par l'assimilation et le génocide et à les transformer en fantômes. Donc il y a eu le système de réserve, mais aussi les pensionnats conçus pour tuer, qui a été mis en place à partir de 1846, mais aussi la stérilisation forcée des femmes autochtones. Savez-vous que le travail forcé et non rémunéré des esclaves noirs ont joué un rôle décisif dans la croissance économique de l'Ontario et du Québec et des provinces atlantiques? Savez-vous que les débats actuels entourant le racisme anti-noir s'intéressent le plus souvent à la brutalité policière et laissent ainsi dans l'ombre des violences structurelles telles que l'esclavage, l'immigration, pourtant responsables de souffrances considérables? Savez-vous que les Noirs sont soumis à une surveillance policière si étroite qu'ils peinent à exister dans l'espace public? Non seulement ils sont plus fréquemment interpellés et questionnés par la police, mais ils sont aussi plus souvent accusés, soumis à des lourdes sentences et incarcérés à la liberté conditionnelle, leur est rarement accordée. Savez-vous qu'en 2014, un blogueur du journal de Montréal révélait que les documents pédagogiques de la première année d'études en technique policière dans l'établissement collégial du Québec enseignaient que les Noirs commettaient plus de crimes que les Blancs? Savez-vous que chaque jour, des milliers de personnes enfreignent la loi? Près de 40% des jeunes ne sont pas incarcérés. La plupart des gens qui commettent des crimes ne vont pas en prison. En un mot, ce n'est pas l'infraction qui fait le criminel, mais son interpellation, son arrestation et sa condamnation. Savez-vous que depuis 20 ans, les services de police de Montréal réaffirment constamment que les jeunes racisés de gangs de rue constituent l'une des plus grandes priorités institutionnelles et lui consacrent des ressources en conséquence, alors que selon le journal Le Devoir, ils ne représentent que 1,6% des crimes rapportés par la police en 2009. La police de Montréal continue de consacrer autant de ressources à ce problème parce que la population avait l'impression que les gangs étaient très actifs à Montréal, même si le service de police savait que cette information était complètement fausse. Savez-vous que la plupart des Canadiens blancs considèrent que les policiers les protègent? Les Noirs craignent que pour leur sécurité en leur présence. Savez-vous qu'en 1987, Anthony Griffin, un adolescent, a été abattu à Montréal d'une balle dans la tête? On a ensuite appris que la police municipale montréalaise plaçait des photos de personnes noires sur ses cibles d'entraînement. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que tout cela, c'est l'expression du racisme systémique. La mort des jeunes adultes noirs tués par la police est généralement mise sur le compte de la criminalité et de la dangerosité des Noirs eux-mêmes. Pour ce Robin Ménard, cette explication n'a pas de sens. L'usage de la force policière n'est pas corrélé à la criminalité. La plupart des Blancs impliqués dans des incidents de ce type ont des casiers judiciaires, mais pas les Canadiens noirs. C'est bien donc la race en soi qui détermine l'intervention de la police et de ses modalités. Donc, en fait, j'aurais aimé vous faire plus de « savez-vous que ?», mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Une autre question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui a changé à Québec? Malheureusement, je n'ai pas de statistiques dessus, mais avec les médias et les différents événements qui se sont passés en 2020 et en 2021, nous avons pu nous rendre compte que le racisme systémique est toujours présent au Canada, notamment au Québec. Je tiens à souligner qu'il y a eu des initiatives qui ont été mises en place par le maire de Québec, comme l'annonce de la création de la Maison de la diversité. Mais c'est pas encore fait, donc on va voir. Concernant les entreprises, on a tous reçu des emails en juin dernier disant que c'était des entreprises diversifiées qui s'alliaient au mouvement Black Lives Matter. Dans certaines entreprises aussi, lorsqu'on postule, on peut voir que certaines entreprises encouragent les personnes issues des minorités à postuler. Moi, par rapport à tout cela, ce que je dis, c'est que c'est bien de recevoir des emails ou d'avoir des mots d'encouragement pour postuler, mais quelles sont les actions qui sont prises derrière? La seconde chose qui est très importante et que je dis souvent, c'est est-ce que votre entreprise représente la population québécoise ou est-ce que votre entreprise représente la population que vous servez? Si la réponse est non, c'est qu'il y a un problème quelque part. Au Québec, en Estrie, j'appuie aussi l'initiative de AIC et Angélique qui ont créé le mouvement Black Estrie afin de promouvoir les initiatives locales initiées par des personnes noires. Donc, je pense qu'il est important que l'on s'éduque, qu'on connaisse notre histoire, mais aussi les faits qui concernent les Noirs du Canada. C'est en prenant connaissance de ce qui se passe dans le système que nous pourrons mieux le combattre, mais aussi d'être mieux armés contre lui. C'est notre rôle à toutes et à tous. Parfois, on se demande ce qu'on peut faire lorsqu'on rencontre une injustice ou du racisme. Alors, il faut en parler, ne rien laisser passer, partager et trouver les ressources nécessaires. Robin Ménard, elle a espoir qu'en connaissant mieux les circonstances qui sont les nôtres, nous serons mieux outillés pour changer les choses. Je vous encourage vivement à lire ce livre. Alors, Magloire, est-ce que tu étais au courant de certains « Savez-vous que ?»
Au moment où ta chronique est toujours aussi instructrice, moi je viens d'en apprendre beaucoup. Je pouvais savoir que le problème existait, mais c'est bien d'avoir des statistiques aussi précises et des faits aussi clairs. Merci Oumu pour cette chronique. On se revoit dans 2 semaines, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc le 21 juin, ça sera sûrement un livre autochtone, puisque le 21 juin, puisqu'on est dans le mois de la reconnaissance des personnes autochtones, donc ça sera ça.
Merci Oumu, vous me tendez la perche là. Nous allons recevoir une invitée justement dans la troisième partie de cette émission pour parler du mois de l'histoire des autochtones, mais avant cela, une pause musicale avec notre ami Brice.
Vous écoutez le magazine Dignité Noire avec Mbayaji Mbayriway. Vous écoutez le magazine Dignité Noire présenté par Mbayaji Mbayriway. Pour nous joindre, dignité@ckiafm.org. Poursuivez la réflexion sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sur CKIA FM 88.3 et c'est Dignité Noire. Je suis Magloire Pembi et je coanime cette émission avec Mbaye et Oumu qui vient de finir sa chronique, qui reste avec nous dans le studio. Comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
On va bien, il fait beau aujourd'hui. Il fait beau à Québec aujourd'hui.
Très bien, oui.
Nous vous invitons pour parler de l'événement Koui. Mais avant d'aborder le vif du sujet, je veux vous donner 30 secondes, une minute, pour que vous preniez le temps de vous présenter à nos auditeurs.
Oui, je vous entends pas très bien, monsieur. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît?
Est-ce que là, vous m'entendez? C'est mieux?
Oui.
Voilà, je disais ceci, nous allons parler de l'événement Koué dans le cadre du mois de l'histoire des Autochtones, mais je vous laisse d'abord le temps de vous présenter auprès de nos auditeurs.
Oui, je m'excuse, ça coupe.
Ah, la ligne n'est pas bonne. Est-ce que là, ça va?
Ça va mieux.
Bon, voilà, je disais que nous allons parler de l'événement Koué, c'est le mois de l'histoire des Autochtones. Mais avant d'aborder le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos auditeurs?
Oui, bien sûr. Alors, ça me fait plaisir de m'adresser à eux ce soir. Mon nom est Mélanie Vincent, je suis membre de la Nation Huron-Wendat et je suis la directrice générale de l'événement Koué à la rencontre des peuples autochtones.
Alors, première question, tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire Koué?
Ça veut dire bonjour. C'est un mot qui est très utilisé dans plusieurs langues autochtones et qui veut dire un peu la même chose. Donc, bonjour à tous.
Donc, si je vous croise dans la rue, je dis Mélanie Vincent Coué. C'est comme ça?
Et voilà.
Et c'est comment vous répondez?
Très simple. Et je réponds Coué Coué.
Alors, Coué Mélanie Vincent.
Oui.
Cet événement a lieu dans le cadre de l'histoire des Autochtones. Qu'est-ce qu'il a de particulier cette année pour vous qui l'avez
fait? En fait, l'événement a lieu depuis 2017, hein, n'est-ce pas? Et puis, nous, normalement, nous étions dans le calendrier des événements de la Ville de Québec. Nous étions depuis 2017, plutôt en septembre. C'est nouveau cette année. On a décidé d'avancer un peu l'événement en juin pour coïncider avec le 21 juin, qui est le solstice d'été. Également la Journée nationale des peuples autochtones. Alors, on a développé une programmation en lien avec tout ça, mais évidemment aussi, on a développé une programmation adaptée aux conditions sanitaires actuelles qui nous forcent peut-être un peu à faire preuve beaucoup d'imagination en raison des restrictions. Donc, cette année, on va être présent à Place Jean Béliveau, à Exposité, dans le Boisé, du 18 juin au 4 juillet, donc c'est sous la forme d'une exposition avec des 11 nations autochtones au Québec. Et on a également un volet virtuel qui va comprendre des démonstrations de nos savoir-faire et aussi des spectacles pour le 21 juin spécialement.
Cet événement, pour vous, malgré les conditions sanitaires, vous avez pris des précautions là-dessus. Est-ce que vous encouragez les familles à venir voir ou à venir participer? Est-ce que vous pensez que cet événement peut parler aux enfants, aux adolescents et à leurs parents en même temps? Est-ce que c'est un événement qu'on devrait venir voir en famille?
Oui, totalement. D'ailleurs, c'est notre public cible, c'est d'ailleurs surtout les familles, les enfants, les adultes aussi, même... Tout le monde peut être intéressé par l'histoire des peuples autochtones au Québec. Et puis, on s'assure toujours d'avoir des activités qui puissent intéresser tout le monde. Alors, nous avons, au niveau de l'exposition, on aura cette année une carte géante des nations au Québec. Les gens vont pouvoir, de façon avec un capteur sensoriel, sans toucher à rien, pouvoir voir là où sont localisées les nations à travers le Québec avec une carte géante. Comme je le disais, il y a également des passages insolites. On passe dans une tente autochtone traditionnelle et dans laquelle on pourra entendre des sons, des langues. Et donc, c'est vraiment pour tout le monde. Et évidemment, nos événements virtuels, nos activités virtuelles s'adressent aussi à tout le monde. Spectacles, démonstrations, par exemple, on aura des démonstrations virtuelles de comment préparer un lièvre avant la cuisson à la manière Anishinaabe, une nation chez nous. Également, par exemple, la fabrication de mocassins, la fabrication de capteurs de rêve, les chants de gorge inuit qu'on va expliquer. Alors, ce sont tous des volets qu'on a cette année. Puis également, il y a un volet particulier cette année, mais qui dure seulement 2 jours, hein. Ça, c'est important de le savoir. C'est que oui, toutes nos activités sont concentrées sur un total de 17 jours, mais il y a le volet culinaire de Coué cette année va se dérouler au Grand Marché de Québec le 19 et le 20 juin. Et ça, c'est l'occasion pour les gens de se rendre au Grand Marché de Québec, aller rencontrer, on appelle ça à la rencontre des saveurs. Eh bien, c'est d'aller rencontrer des gens de nos nations avec des chefs cuisiniers connus et qui ont préparé pour vous des coffrets de démonstration de la gastronomie ou enfin des ingrédients qu'on utilise encore au niveau des Premières Nations pour faire de la bonne nourriture. Alors, il y a 3 volets, 3 thèmes cette année au niveau culinaire, bien la cueillette, la chasse et la pêche. Et ces coffrets-là seront en vente au coût de 60 $ pour 2 personnes, des coffrets complets et qui sont disponibles au Grand Marché et en prévente à l'heure actuelle sur notre site Internet.
Donc, on pourra manger comme mange ou comme manger les Autochtones, avec retrouver les mêmes saveurs.
Bien, ce sont des inspirations hein, de saveurs autochtones. Alors, on essaie d'être très contemporain également dans toute cette imagination culinaire-là. Donc, c'est à ne pas manquer, oui. C'est unique. Il y a
pas nécessaire. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait en passant. Alors, on veut essayer d'impressionner les gens un peu sur comment on peut faire de la nourriture basée sur les traditions. Et c'est ce qu'on vous offre cette année comme volet culinaire.
En espérant que la pandémie sera bientôt derrière nous, est-ce que ça, c'est la prémisse à l'ouverture d'un restaurant gastronomique autochtone? Ce serait une bonne chose, ça?
Écoutez, il y en a déjà, je pense, là, des restaurants ou, par exemple, il y a la Sagamité à Québec et ailleurs dans d'autres villes, certainement d'autres institutions culinaires comme ça, mais nous, notre souhait cette année, c'est vraiment de faire part aux gens, de démontrer aux gens qu'il existe une gastronomie inspirée des traditions autochtones, et c'est ce qu'on souhaite faire cette année, par la cueillette, la chasse et la pêche.
Mélanie Vincent, il y a eu dans les dernières années, les dernières semaines, des événements malheureux qui ont touché la communauté autochtone ou les communautés autochtones, notamment en matière de discrimination dans les hôpitaux. On a suivi l'actualité. Il y a au niveau de gouvernants une certaine réticence à parler de racisme systémique. Dans quelle mesure cette ambiance, ce contexte a agi sur l'organisation de cette exposition? Et est-ce que vous croyez qu'une exposition comme celle dont nous parlons pourrait être un moyen pour améliorer les rapports entre les Québécois aujourd'hui, quelles que soient leurs origines?
Ben, c'est notre objectif de base, déjà depuis 2017, depuis que Coué, l'événement existe. C'est le rapprochement des peuples, le mieux vivre ensemble, mieux se connaître. Alors, on a décidé de pouvoir organiser quelque chose à plus grande échelle à Québec pour pouvoir tendre la main aux gens, que les gens viennent nous voir, viennent nous connaître. Je pense que ici, le but, c'est vraiment d'être un endroit sécurisant pour la population, pour les gens qui souhaitent en savoir plus, mais qui ne savent pas vraiment à qui s'adresser nécessairement. Alors, nous, ce qu'on offre, c'est un événement qui permet librement aux gens de venir nous voir, de poser leurs questions, de pouvoir mieux nous connaître. Alors, je pense que c'est un incontournable événement qui se passe à Québec. Il y a d'autres événements dans d'autres villes, bien entendu, qui sont tout aussi intéressants, mais c'est unique en son genre un peu et ici à Québec. Et puis, c'est l'objectif de base, c'est-à-dire de réduire les préjugés et en fait les stéréotypes et tout, et tout ça dans l'authenticité. Nous, on travaille directement avec les nations concernées, avec les communautés concernées, et nous validons toujours tout ce qu'on fait avec nos gens. Alors, je pense que c'est un rendez-vous à ne pas manquer, et puis c'est un événement qui est gratuit en passant, hein. Alors, je pense que ça vaut la peine de faire le détour à Québec du 18 juin au 4 juillet.
Dans cette même veine, quand on parle de problèmes de racisme systémique, sans toucher les minorités ou les personnes racisées, est-ce que dans le cadre de cette manifestation, est-ce qu'il y a des ponts qui sont faits ou qui sont liés?
Vous entends mal, monsieur, je suis désolée.
Waouh. Je vais répondre. Je disais ceci, est-ce que là, vous m'entendez?
Oui.
Oui, je disais ceci. Quand on parle de racisme systémique, sans concerner les populations racisées, les minorités, est-ce que dans le cadre de vos activités, est-ce qu'il y a de ponts qui sont jetés entre différentes communautés, quoique différentes, mais qui subissent d'une certaine façon ce regard discriminant de la part du reste de la société? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut imaginer qui se fassent ensemble entre les nations autochtones ou les populations noires, par exemple, de Québec?
Tout à fait, monsieur. Écoutez, tous les citoyens, peu importe d'où ils soient, d'où ils viennent, de leur origine ou quoi que ce soit, nous avons la main ouverte à accepter toute personne qui, évidemment, s'intéresse à nos enjeux. Alors, pour nous, c'est un rendez-vous important, qui qu'on soit, n'est-ce pas? Alors, il est important parce que, bon, évidemment, pour nous, le racisme systémique ne fait aucune question, mais évidemment, nous passons beaucoup par la culture, par le mieux se comprendre et par l'ouverture d'esprit pour inviter les gens à mieux nous connaître. Alors, c'est la voie qu'on a choisie à Croué pour pouvoir discuter de ces enjeux-là et aussi les aborder. Donc, nous avons totalement une ouverture d'esprit et c'est ça que les gens doivent comprendre. Ils ne doivent pas avoir peur de venir nous rencontrer. On est là pour ça.
Ces manifestations existent depuis un certain nombre d'années. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et quelles ont été les difficultés particulièrement en cette année 2021?
Ben écoutez, tout le monde est un peu d'accord avec ça, c'est que ça a été difficile avec la pandémie de pouvoir poursuivre nos activités. On était aussi une organisation naissante, alors il a fallu se faire connaître, il a fallu avoir quand même plusieurs représentations, mais éventuellement, on a été capable d'atteindre l'intérêt là, de plusieurs partenaires, incluant la Ville de Québec notamment, qui nous appuie d'une façon extrêmement importante cette année et pour les 3 prochaines années, c'est ce qu'on souhaite. Et puis, évidemment, nos partenaires financiers du gouvernement du Québec et d'autres partenaires plus privés. Mais nous faisons beaucoup d'efforts pour être capables de tenir cet événement-là qui est essentiel. Parce que sachez que au départ, en 2017, lorsqu'on a fait le premier événement Croué, il n'y avait qu'une seule édition. Hein. C'était dans le cadre du 150e anniversaire du Canada. Il y avait des fonds disponibles. On voulait faire quelque chose à Québec. Évidemment, il n'y avait pas tant de grands événements à Québec touchant les peuples autochtones. Il y en a ailleurs, mais à Québec, c'était plus ou moins connu. Alors, on a décidé de mettre l'accent là-dessus. Et puis, depuis ce temps-là, bien, on s'est dit, bien, pourquoi pas le refaire? Et puis, c'est ce qu'on a fait. On a mis des efforts pour revenir à chaque année. La pandémie nous a pas aidés en 2020. Nous avons évidemment dû annuler l'événement en 2020, mais on s'est repris cette année en 2021 avec une formule hybride et on souhaite que les gens soient au rendez-vous. On souhaite aussi, évidemment, que les gens soient là l'année prochaine, en 2022. On devrait encore une fois être de retour vers le mois de juin, dans les mêmes dates, pour pouvoir offrir quelque chose à plus grande ampleur.
Avec la pandémie, on voyage de moins en moins vers l'étranger. On redécouvre le tourisme à l'intérieur du Québec. On espère que cet événement permettra à ceux qui ne pourront pas aller plus loin qu'au Canada, d'avoir de quoi s'occuper pendant l'été. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour atteindre le maximum des gens, pour publiciser cet événement et pour attirer le maximum de Québécois à l'événement Croué?
Ben, d'abord, on a une stratégie de communication, bien sûr, là, qui va à TVA notamment, qui est un de nos partenaires officiels pour une publicité qui va commencer bientôt. On essaie de mettre nos communications au diapason là, des besoins à l'heure actuelle. C'est sûr qu'on doit toujours surveiller parce qu'on s'est dit que on savait pas trop. Hein. Vous savez, quand on organisait l'événement cet hiver, ben, on se disait ben, en mois de juin, qu'est-ce que ça va être? Quelles seront les conditions? Donc, on était un petit peu dans l'incertitude, comme un peu tout le monde, bien entendu. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déterminé un scénario sécuritaire qui permet aux gens de venir sur le parc et puis qu'on aura à ce moment-là donc des mesures qui seront en place pour assurer la sécurité de tout le monde. Et c'est pourquoi on a fait un volet virtuel aussi. Malheureusement, on aurait aimé bien offrir nos spectacles en personne. Ça n'a pas été possible. Ça ne sera pas possible cette année, mais on espère le faire l'année prochaine. Donc, les gens qui veulent venir à Québec sont les bienvenus. Ils peuvent venir voir notre exposition, peuvent écouter tout ce qu'on a à dire, tout ce qu'on a à offrir finalement sur nos réseaux sociaux. Et on les invite à le faire grandement pour nous encourager finalement à revenir en force l'année prochaine.
Dans votre stratégie de communication, il y a un site Internet, il y a une page Facebook. Est-ce que vous avez déjà commencé à regarder un peu la fréquentation de ces outils pour voir comment est-ce que c'est en train de prendre dans la population?
Absolument, bien sûr. Écoutez, on a au-dessus de 9000, presque 9000 abonnés à notre page Facebook, ce qui est très intéressant pour nous et l'engouement est là. Notre site Internet, couéquébec.com, toute notre programmation en ligne, en anglais et en français. Nous, on fonctionne toujours anglais-français, bon, pour être certain d'atteindre le plus de gens possible. Puis nos nations, évidemment, comme seconde langue, souvent, c'est le français ou l'anglais. Donc, on travaille toujours dans les deux langues. Et aussi, eh bien, on tente d'avoir des stratégies là qui puissent vraiment atteindre les gens, qui puissent les attirer à venir voir nos événements. Mais on compte également sur vous pour faire la promotion.
Bien, c'est ce que nous sommes en train de faire.
Je rappelle. Et voilà. Et merci.
Merci, je rappelle, monsieur, que nous recevons Mélanie Vincent, organisatrice de l'événement Koué à la rencontre des peuples autochtones du 18 juin au 4 juillet. Le site internet de l'événement, je le rappelle, c'est www.kouéquebec.com et la page Facebook de l'événement, c'est www.facebook.com/Koué Québec. Mélanie Vincent, est-ce que vous avez un mot de la fin?
Ben oui, un mot de la fin, c'est d'abord, je vous remercie infiniment de m'avoir invité à votre émission et c'est très, très apprécié. Et je suis disponible n'importe quand si vous avez encore une fois l'occasion de le faire. Et puis, je vous invite aussi tout le monde qui nous écoute, qui vous écoute, à venir voir l'exposition à Place Jean Béliveau du 18 juin au 4 juillet à exposer au Grand Marché le 19 et le 20 juin. Et puis, à regarder également, aller consulter notre page Facebook, allez consulter notre site internet pour la programmation complète à couéquebec.com et ça va nous faire plaisir de vous parler, de vous accueillir.
Ici à Dignité Noire, nous sommes heureux de parler de cet événement. Nous allons peut-être pas prendre une promesse ferme, mais en tout cas, on va essayer de vous avoir pendant l'événement et probablement après l'événement pour tirer le bilan. Merci.
Ça
beaucoup,
va me faire plaisir, monsieur. Ça va me faire plaisir. Au revoir.
Au revoir. Non, on ne va pas dire au revoir. Oh. Comment on dit au revoir en langue autochtone?
Tiawank. Tiawank, ça veut dire merci. Eskiawank, ça veut dire au revoir.
Eskiawank.
Eskoyen. Eskoyen, dans la langue Huron-Wendat, qui est la mienne.
Eskoyen, Mélanie Vincent.
Oh, au revoir.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Vous écoutez le magazine Dignité Noire. Avec Mbayaji, Mbaye Riway. Vous écoutez CKIA et le magazine Dignité Noire. Vous écoutez le magazine Dignité Noire, présenté par Mbayaji, Mbaye Riway. Pour nous joindre, dignité@ckiafm.org. Vous écoutez le magazine Dignité Noire avec Mbayaji, Mbaye Riway. Poursuivez la réflexion sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux.
C'était ma première en direct, oui.
Alors, comment tu t'es sentie?
Ben, c'est une belle expérience. On avait déjà fait, pendant la pandémie, une émission qu'on a pré-enregistrée. Mm-hmm. Mais voilà, le direct a un charme que tous les animateurs radio connaissent très bien. Et donc, ça fait plaisir.
Et quand est-ce qu'on te revoit?
On se revoit très prochainement, dans 2 semaines, probablement, pour ta prochaine chronique.
Super.
Et puis, pour la suite, Dignité Noire va préciser son programme pour l'été.
Super, merci.
Merci, Oumou, d'être passé. Amis à l'écoute, vous êtes sur CKIA FM 88.3. Et vous écoutez Dignité Noire. Nous avons reçu aujourd'hui Joanne Pelletier et Véronique Demers pour leur mission humanitaire au Togo. Nous avons reçu notre chroniqueuse Oumou pour sa chronique littéraire consacrée au livre Noir sous surveillance de
Robin Ménard.
Et enfin, nous avons reçu Madame Mélanie Vincent pour parler de l'événement Koué. Dignité Noire vous remercie de votre fidélité. Nous nous retrouverons la fois prochaine. Et comme le dit souvent la Mimbaye, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie.
Vous écoutez le magazine Dignité Noire, présenté par Mbayaji Mbaye Riway. Pour nous joindre, dignité@ckiafm.org.
learned from COVID-19 is that something small can spread quickly, like a ripple. If enough of us do our part by getting vaccinated, we can start a wave. A wave of Canadians helping each other return to the people and places we love. We can all help by getting vaccinated. Learn more at canada.ca/COVID-vaccine. A message from the Government of Canada.
Can music give you what you need? Does sound have the power to process complex emotions? Can placebos help?
Audio.
How are you today?
I'm Erin.
And I'm Julia.
How are you
and
today?
We're here to offer a kind of help with Audio Placebo Plaza. For 1 week, we offer everyday people customized positive messages, audio creations, healing frequencies, binaural beads, ASMR, and more. From June 11th to 16th at 6835 Rue Saint-Hubert and on undefined.fm.
This project is produced by Undefined Radio and co-presented by Stony Pearl Pueblo and CKUT.
Welcome to Queer Core on CKUT 90.3 FM, Montreal's only queer culture show that bridges any divide between queer sex and radical queer politics. Due to the fabulous nature of queer experience, tonight's program may contain sexually explicit or coarse language. You've been advised. Hi all, welcome back to the show. It's 6:02 p.m. and you're listening to Queer Core on CKUT 90.3 FM in Montreal, Jajage. This week, the Lorenza Botner exhibit at the Leonard and